Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Alain Fleischer. Ce soir, le Frénois fabrique d'une utopie.
Bonsoir Alain Fleischer. Nous nous retrouvons de nouveau ce soir dans votre bureau du Frénois, dans les environs de Tourcoing. Un lieu que vous avez inventé, dont la genèse remonte à 1987, qui a ouvert ses portes en 1997. Nous nous trouvons dans un ancien lieu de divertissement populaire qui date du début du XXe siècle. D'ailleurs, dans un coin de votre bureau, il y a un bas-relief de Mickey qui semble être resté là depuis. Le Frénois est à la fois une école et un projet un peu fou, très habité d'utopie, une formation qui veut être la dernière, juste avant qu'un artiste entre dans sa vie d'artiste. Une formation dans laquelle il n'y a pas vraiment de corps enseignant permanent. C'est avant tout un lieu de travail pour les étudiants, mais aussi pour les artistes intervenants. Un lieu pourvu de moyens professionnels, extrêmement performants. C'est aussi un lieu de transmission. Alors, revenons un petit peu en arrière. Pendant vos premières années, Alain Fleischer, vous avez beaucoup enseigné. Vous avez enseigné à l'Université Paris 3, à l'IDEC, à la FEMIS, mais aussi à l'École d'art de Cergy. Est-ce que vous avez aimé ces années d'enseignement ?
Oui, j'ai un grand goût pour la transmission. Pas du tout pour la paternité, par contre. Quand on me dit les étudiants du Frénois sont tes enfants, je dis non. Je n'ai pas de goût pour la paternité, mais j'ai un vrai goût pour la transmission. Et j'ai une réelle expérience de pédagogue. J'ai en effet enseigné dans des écoles d'art, de cinéma, de photographie, à l'université, donc aussi bien la pratique que la théorie. Et le Frénois est la leçon que j'ai tirée de toute cette expérience. Une leçon critique de ce que peut être l'enseignement de l'art dans ces différents lieux traditionnels, les écoles d'art, les écoles de photographie et de cinéma, etc., ou les universités. Donc c'est une leçon critique qui prétend corriger les défauts que j'ai pu constater. Et quand vous dites que, par exemple, il n'y a pas de corps enseignant permanent au Frénois, c'est vrai que dans les écoles où les profs passent 20, 30, 35 ans, 40 ans, où ils finissent par s'installer dans une sorte de fromage, ils perdent leur aura, ils perdent leur ascendance sur leurs étudiants, et c'est très dommageable. Donc au Frénois, en effet, il n'y a que des artistes professeurs invités pour des périodes courtes, un an, deux ans, et qui arrivent choisis pour leur exemplarité. Une exemplarité qu'ils conservent et qu'ils mettent à profit pour justement donner l'exemple. Donner l'exemple en créant eux-mêmes une œuvre, puisque la pédagogie du Frénois est basée sur la création, sur le passage à l'acte. Il y a très peu de cours au sens traditionnel, il y a des ateliers, mais en fait, l'essentiel, c'est de passer à l'acte. C'est-à-dire de concevoir un projet et de le réaliser, entre guillemets, dans le grand bain. C'est-à-dire, pas avec des moyens approximatifs, comme dans beaucoup d'écoles, qui d'ailleurs sont légitimes. Quand on initie un jeune étudiant, un jeune artiste, à certaines techniques, il est normal de ne pas le mettre au volant d'une Ferrari. Donc c'est normal aussi d'avoir des outils d'apprentissage qui sont assez modestes. Au Frénois, c'est le contraire. On offre aux étudiants des moyens de production professionnels. Et on demande aux profs de produire eux-mêmes des œuvres. Donc ils donnent l'exemple et ils accompagnent les productions des étudiants. Voilà, c'est un projet sans doute un peu utopique, ce qui lui a valu de réussir d'ailleurs. C'est parce que c'est une utopie qu'il a trouvé un lieu, contrairement à l'étymologie du mot. Et c'est un projet qui est en effet le résultat de mon expérience de pédagogue et mon amour de la pédagogie. J'aime beaucoup enseigner, j'espère avoir un peu de talent pour ça, mais en tout cas j'ai adoré accompagner des étudiants, parfois au-delà même de ce que doit faire un prof, parce qu'il y a un moment où il faut qu'il cesse de tenir la main de l'étudiant pour le laisser voler de ses propres ailes.
À l'origine du Frénois, il y a un déjeuner à la Villa Médicis où vous étiez résident en 1987.
C'est exact. Et je souligne dans un livre que j'ai écrit sur l'histoire du Frénois que l'histoire de lieux qui sont très vite des lieux officiels peuvent tenir à des anecdotes de la vie privée. En effet, j'étais pensionnaire à la Villa Médicis, comme on disait, de cet affreux mot de pensionnaire qu'il faut plutôt penser aux pensionnaires des Invalides. Mais je recevais la visite de Dominique Bozo, que j'avais connu comme directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Il m'avait commandé des films à l'époque. Il savait que j'étais à la fois artiste, cinéaste, photographe, donc il s'intéressait à cette identité pluridisciplinaire. Il était venu me trouver à la villa pour me demander quels étaient mes projets pour mon retour en France. À l'époque, je n'avais pas du tout envie de rentrer en France ni de penser à ce retour. Mais il m'avait dit qu'il avait une proposition à me faire, et c'était celle de créer une école d'art d'un type nouveau. Cette proposition était d'autant plus touchante de la part de Dominique Bozzo, qui était un homme qui n'aimait vraiment que la peinture, que Picasso, Matisse, Braque, mais qui savait que des choses allaient se passer dans le champ de l'art, que d'autres langages allaient émerger, d'autres moyens d'expression. C'était le tout début des nouvelles technologies, et il avait eu cette probité, cette honnêteté de lancer un projet qui n'appartenait pas à son univers ni à ses goûts. Donc voilà, tout est parti de là, de ce séjour à la Villa, de ce déjeuner amical où nous l'avons reçu avec ma compagne, qui je pense l'avait un peu séduit, voilà, qui lui a fait par ailleurs un bon repas. Donc ça a tenu beaucoup à ça, ce moment d'amitié où lui-même a été étrangement intime. Enfin, il m'a confié sa perception de ses échecs et de ce qu'il avait réussi ou raté dans sa vie. C'était très émouvant, une sorte de confidence, alors qu'on se connaissait d'une façon un peu formelle, comme ça, pour avoir travaillé ensemble au Centre Pompidou. Tout est parti de là, et voilà, il m'a demandé d'aller le voir quand je rentrerai à Paris. Comme je n'avais pas très envie de faire ce projet ni cette mission dans le nord de la France, puisque la destination était déjà fixée, et que j'avais au contraire envie de rester par tous les moyens possibles en Italie, je suis rentré à Paris sur la pointe des pieds sans lui faire signe, mais il m'a vite retrouvé. Il m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, bon ben voilà, maintenant, je vous libère de toutes vos autres charges. J'étais prof, en effet, à Paris-Cergy, à la FEMIS, enfin c'était encore l'IDEC, à l'université. Il m'a dit, je m'occupe de tout ça, je vous libère de tout ça, et vous faites cette mission dans le nord de la France. C'est comme ça que tout est parti. Moi, j'étais convaincu que cette mission allait aboutir à un rapport qui atterrirait au fond d'un tiroir. Et je croyais que ça allait être une année comme ça pour moi de retour, tranquillement, sans avoir à reprendre tous mes travaux, une année de transition. Mais on m'avait associé dans cette mission un grand spécialiste de la scène culturelle, un haut fonctionnaire de la culture, qui était Bernard Fèvre-Darcier, qui avait dirigé le Festival d'Avignon pendant des années, qui connaissait parfaitement le milieu culturel et le milieu politique. Et quand il m'accompagnait dans le Nord et qu'il me faisait découvrir les villes, qu'il m'apprenait à dire bonjour à un préfet ou à un maire ou à un député, ce que je ne savais pas faire, il me disait « ça va se faire, ce projet va se faire ». Moi, je n'y croyais pas du tout, et j'étais décidé, en gros, à ce que ça ne se fasse pas. Donc j'étais décidé à faire un projet tellement extrémiste, tellement jusqu'au boutiste, tellement idéaliste, qu'on me dirait au mieux « écoutez, c'est bien joli, mais vous en demandez trop ». C'est le contraire qui s'est produit. Ce projet utopique a séduit le ministre de l'époque, Jack Lang. C'était une époque d'ailleurs bénie de la politique culturelle en France. Hein. Je pense que 5 ans après, le Frélois n'aurait pas pu naître. Donc Jack Lang a été séduit par la dimension utopique du projet, et c'est parce que c'était un projet qui n'avait pas de lieu possible, comme le dit le mot utopie, qu'il a voulu que ça existe et que ça trouve un lieu. Ce lieu, bah, ça a été le Frénois, découvert dans le nord de la France au cours d'explorations qui m'ont d'abord conduit dans toutes sortes de friches industrielles, de filatures désaffectées, de docks, d'entrepôts, d'usines, qui tout était touchante, parce que l'architecture industrielle est parfois magnifique. Tout était émouvant, tous ces lieux étaient émouvants, ils étaient très marqués par la mémoire du travail et de quelque chose quand même d'un peu douloureux. Tandis que le Frénois, quand on m'a ouvert les portes du Frénois, c'était la ville de Tourcoing qui s'était déclarée intéressée à nous accueillir. J'ai découvert un lieu magique dont la mémoire était au contraire extrêmement joyeuse, puisque, comme vous le disiez, ça avait été pendant quelques 70 ans un lieu de distraction populaire, de divertissement, où toute la population laborieuse de la région venait s'amuser les week-ends et les jours fériés. Et où d'ailleurs beaucoup de Tourquenois gardaient le souvenir d'avoir rencontré leur future épouse et d'être venus ici pour danser, pour patiner à roulette ou pour aller au cinéma.
Lorsqu'on regarde la liste des artistes qui sont intervenus au Frénois, on a l'impression de voir, en quelque sorte, une famille au moins intellectuelle ou artistique. On peut trouver, par exemple, les noms de Dominique Paigny, de Bruno Racine, de Jean-Luc Monterosso. Parmi les artistes, il y a Ryoji Ikeda, il y a Bruno Dumont, il y a Bellatar, Raoul Ruiz, Michael Snow. Parmi les théoriciens, il y a Georges Didier Huberman. Il y a eu aussi des expositions faites par Fabio Mauri ou encore une exposition de Bill Viola. Votre conception de l'amitié, Alain Fléchère, vous le disiez, hier, c'est une façon de produire ensemble. Au fond, c'est ce que vous avez voulu mettre en œuvre ici aussi au Frénois.
Tout à fait. J'ai voulu embarquer dans mon aventure mes proches, mes amis. Et c'est ce que je trouve de plus beau dans l'amitié, effectivement, c'est de partager des expériences, des aventures intéressantes. Donc, comme vous le disiez, j'ai été accompagné dans ce projet par des proches. Vous citez Dominique Paigny. Dominique Paigny a été associé au Frénois dès le concours d'architecture. Il était membre du jury. Georges Didier Berman est venu parmi les tout premiers conférenciers, puis il a fait des expositions ici. Les artistes ont été choisis, effectivement, dans un premier temps parmi mon carnet d'adresses. Après, ça s'est diversifié. Mes collaborateurs ont apporté leurs propres connaissances du monde de l'art, notamment dans le domaine du numérique où je suis moins pointu. J'ai beaucoup écouté donc ce qu'on m'a recommandé, ce qu'on m'a conseillé autour de moi. Mais c'est en effet un lieu où sont intervenus d'abord les membres d'une, comme vous dites, d'une famille intellectuelle, avec probablement comme culture de référence l'image en général et plus particulièrement le cinéma. Le cinéma est resté cet art qui a dominé tout le XXe siècle, qui continue à mon avis de dominer le début du XXIe siècle, même sous des formes qui sont émancipées des outils et des supports d'origine historique du cinéma, et autour de ce noyau du cinéma que j'ai réintroduit dans un projet qui ne le prévoyait pas au départ, puisque ce Bauhaus de l'électronique ou cette Villa Médicitech ou cette Tiercap des arts plastiques ne faisait pas évidemment la place au cinéma. Le cinéma, je l'ai réintroduit parce que c'est du cinéma que je venais et que je trouvais anormal de couper les premières images de la modernité, c'est-à-dire photographier cinéma, des images des technologies émergentes. Donc voilà, autour de ce noyau d'amis proches du cinéma, de la théorie des images, comme Georges, s'est développé le projet du Frénois avec des intervenants intellectuels, des commissaires d'exposition, des artistes. Et le Frénois, c'est le résultat de ça. Oui.
Il y a eu d'ailleurs au Frénois de grands moments de cinéma, comme par exemple l'intervention de Jean-Luc Godard, qui a donné lieu à un film que vous avez vous-même réalisé et qui était lié à son exposition au Centre Pompidou.
Tout à fait. C'est d'ailleurs Dominique Paigny qui nous avait amené Jean-Luc Godard ici, comme il nous avait amené précédemment les Straub. Grand moment de l'histoire du Frénois. Avec Jean-Luc Godard, donc, on avait un accord qui était que, normalement, il nous associe à tous ses travaux préparatoires à son exposition au Centre Pompidou. Et plutôt, avant même que le projet d'exposition, il y avait un projet de film. Il devait faire une série de films qu'il appelait Collage de France, avec un pied de nez au Collège de France qui lui avait refusé de faire un cours. On devait coproduire ses films, et puis finalement, ces films, il ne les a pas faits. Donc en échange de cette collaboration qui ne pouvait avoir lieu, il nous a proposé de venir chez lui pour le voir, pour le filmer et en fait de le découvrir comme un artiste en allant dans son atelier de travail. Et puis il est venu ici, il a découvert les œuvres des étudiants, il a dialogué avec eux. J'ai filmé tout ça, ça a été de très grands moments, à la fois parce qu'il y a des éclairs de génie chez Jean-Luc Godard et parce qu'il y a des moments où il ne comprenait pas cet usage du cinéma que font les artistes qui ne font pas des films, qui font des installations, qui font un autre usage des images animées. Alors parfois il ne comprenait pas et c'était intéressant de voir les étudiants lui répliquer, lui dire pourquoi il avait tort quand il disait « une installation c'est bien joli, mais moi j'ai envie de voir la suite, pourquoi c'est en boucle, quelle est la suite de l'histoire ?» Alors les étudiants lui répondaient que les œuvres, les installations obéissaient à une autre temporalité, à une autre relation au public, que le spectateur n'était pas assis à place fixe, qu'il pouvait s'approcher d'une œuvre, y rester 5 minutes ou 2 heures. Bon, tout ça, ça donnait lieu à des échanges extraordinaires. Et puis, par moments, il y a eu des discussions absolument extraordinaires où Godard, en compagnie d'ailleurs d'André Labarthe, qui était souvent son compagnon dans ses rencontres au Frénois, il disait des choses extraordinaires aux étudiants. Il leur disait que, par exemple, si le microscope est l'instrument d'observation de l'infiniment petit, et le télescope, l'instrument d'observation de l'infiniment grand, c'est le cinéma qui est le moyen d'observation de l'infiniment moyen. Et j'ai adoré cette idée de l'infiniment moyen dont l'instrument d'observation serait la caméra. Vous voyez, il y a des moments comme ça, celui-là est un moment particulièrement magique. Mais on a eu effectivement un homme comme Jean-Luc Godard, avec qui on a passé pratiquement 2 ans, ici avec lui au Frénois, ou chez lui quand on allait le voir à Rolle, en Suisse. Il y a des moments magnifiques avec les Straub, qui venaient ici et qui créaient une sorte de religiosité autour d'eux quand ils travaillaient au montage. Ça donnait lieu d'ailleurs à un très beau film de Pedro Costa qui a filmé dans la salle de montage des Straub leur travail avec Daniel Huillet aux commandes de la table de montage et Jean-Marie avec son vieux cigare toscan au coin de la bouche en train d'aller de long en large pour superviser les choses. Voilà, puis il y a eu Raoul Ruiz au tout début, il y a eu Robert Kramer, il y a eu Michael Snow, on a eu des grands acteurs, on a eu Chantal Akerman, Claire Denis, et puis récemment Bruno Nuitaine. On a aussi Caroline Champetier, j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour les techniciens. Caroline Champetier et Bruno Nuitaine se sont surtout fait connaître comme directeurs de la photo, même s'ils sont aussi des cinéastes. Voilà, il y a eu de très beaux moments avec des artistes, avec des plasticiens, avec des compositeurs, avec des chorégraphes. Une des premières profs a été Anne-Thérèse de Kersmacher. Et puis ça a continué, il y a eu Alain Buffard, Christian Rizot, Daniel Dobels.
Cette famille Dufresnois, elle s'est aussi agrandie d'un certain nombre d'anciens élèves qui, pour certains, vous ont particulièrement touché, je crois.
Oui, il y a beaucoup d'anciens étudiants Dufresnois qui réussissent magnifiquement sur la scène de l'art ou du cinéma. Mais il y a certaines figures qui me touchent plus que d'autres, soit parce que je les ai fréquentées plus que d'autres pendant leur séjour au Dufresnois. C'était le cas d'Henri Sala, qui à l'époque se consacrait plutôt au cinéma, et donc il m'appelait souvent dans la salle de montage pour lui donner mon avis, lui donner des conseils, et je le voyais devenir un cinéaste important. Il était finalement attiré par le monde de l'art qui s'est emparé de lui, qui l'a happé, mais bon, il fait une très belle carrière. Et puis il y a Clément Cogitor qui lui réalise en quelque sorte le parcours idéal pour moi, puisque à la fois c'est un cinéaste extrêmement talentueux, qui réussit, qui fait des vrais films, je dirais, de fiction,
Ni le ciel ni la terre, par exemple.
Par exemple, qui est un film magnifique, et puis qui a aussi une carrière d'artiste. Alors lui, c'est l'exemple de l'étudiant Dufresnois, comme j'aimerais qu'il y en ait beaucoup. Hein, voilà. Par contre, je n'aime pas qu'on dise qu'il y a une estampille Fresnois. C'est pas vrai. Il n'y a pas des œuvres marquées made in Fresnois, ni des étudiants formés au Fresnois. Les étudiants apportent leur culture, leur univers de référence, souvent des univers lointains quand ils viennent de pays aux quatre coins du monde, sur tous les continents. Ce qui peut marquer les œuvres produites par ces étudiants, ces jeunes artistes au Fresnois, c'est la qualité d'achèvement de leurs œuvres. Ils sont tous très différents. Enrique Ramirez, par exemple, qui vient du Chili, a fait des œuvres magnifiques qui ne sont pas marquées made in Fresnois. Il les a faites au Chili ou ailleurs. Elles viennent de sa culture, de son imaginaire, de sa sensibilité. Par contre, le Fresnois lui a permis de les mener à un point d'achèvement, d'accomplissement, je dirais peut-être de perfection, auquel il n'aurait pas atteint tout seul ou avec des moyens ou un accompagnement moins bon que le nôtre. Parce que non seulement on fournit des moyens techniques très professionnels, mais un accompagnement intellectuel. Donc je ne sais plus quel prof a eu Enrique Ramirez ou Clément Cogitor ou Joachim Hollander qui va bientôt soutenir une thèse de doctorat ici, mais ils ont sûrement bénéficié d'un accompagnement intellectuel remarquable.
Au Fresnois, le projet architectural est extrêmement fort. L'intervention de Bernard Tchoumi sur cet ancien bâtiment de 1905, et ce projet, c'est vous qui l'avez mené.
Disons que j'ai beaucoup dialogué avec Tchoumi, c'est quand même une œuvre de Tchoumi qui d'ailleurs est même un peu la première œuvre de son écriture d'architecte. Il la revendique comme telle. En tout cas, il y a des thèmes comme la question de l'enveloppe ou de l'entre-deux qu'il a expérimenté pour la première fois ici et qu'il a ensuite développé dans d'autres bâtiments. J'ai beaucoup dialogué avec lui. Lui était très fasciné par la théorie du cinéma et notamment par la théorie du montage. Et moi, j'étais très fasciné par le travail des architectes en me demandant comment ça s'écrit l'architecture. Un film, je sais que ça s'écrit, et un scénario, bon. L'architecture, comment ça s'écrit? J'ai beaucoup interrogé un autre grand architecte qui est un ami, c'est Jean Nouvel, sur comment ça se conçoit, comment ça s'écrit. Donc on a beaucoup dialogué, et le bâtiment qu'il a conçu, en s'appuyant sur le bâtiment ancien, est très métaphorique de ce qu'est le projet pédagogique et artistique du Fresnois. Parce qu'en fait, les autres candidats au concours d'architecture préconisaient une tabula rasa de l'ancien bâtiment. Ce qui était une faute, parce que si on avait voulu un terrain vague pour construire un bâtiment nouveau, on n'aurait pas choisi l'ancien Fresnois comme site d'implantation de cette école. On aurait pu choisir un terrain vague ou une friche industrielle à raser. Donc Tchoumi a bien compris qu'on tenait à ce bâtiment, à son histoire, à sa mémoire. Donc il l'a conservé à 80%, il l'a flanqué, surmonté et entouré d'un bâtiment moderne, très futuriste au contraire, une sorte de soucoupe volante tombée du ciel sur les vieux bâtiments. Et l'articulation entre l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire entre le grand toit, soucoupe volante, et l'ancien frénois avec ses toits en tuiles et en accent circonflexe, crée cette articulation entre le XXe et le XXIe siècle. Il métaphorise le projet du frénois qui, comme je dis tout à l'heure, partit d'une culture de référence qui est le cinéma, à un fort tropisme vers les technologies numériques et vers tous les langages émergents.
Je voudrais revenir à cette question des lieux, Alain Fleischer. Nous avons parlé de la Hongrie de votre père, de l'Espagne de votre mère, de l'Italie, de vos rêves, de Paris aussi. Parmi vos lieux aujourd'hui, il y a le frénois. On imagine que vous vous y êtes également attaché, puisque vous y passez beaucoup de temps. Finalement, le frénois dont vous êtes à la fois le directeur et, comme vous avez l'habitude de le dire, peut-être aussi un artiste qui travaille parmi les autres, le frénois n'est-il pas d'une certaine manière votre atelier ?
Il y a un peu de ça parce qu'en réalité, j'ai pas d'atelier. Mon atelier est dans ma tête. Comme je disais, je suis plutôt un acteur, un créateur du projet, donc de la projection que du matériau et de la technique. Je projette mes idées et ensuite je les bricole, je les réalise avec les moyens que j'ai sous la main. Donc, en effet, le frénois, d'abord, j'aime m'y sentir un étudiant et pas du tout un directeur. Je ne porte jamais de cravate ni de costume trois pièces. Je me sens très proche des étudiants. Sans doute, c'est une illusion un peu trompeuse parce que je n'ai pas leur âge. Mais je m'y sens au travail. Je me sers des outils du frénois. Pas pour des travaux personnels, je me l'interdirais, ce ne serait pas correct. Mais par contre, je réalise au frénois beaucoup de commandes qui me sont faites pour le frénois. C'est-à-dire que, par exemple, des organismes comme des musées de la région ou la région elle-même ou me commandent des films qu'ils souhaitent que je réalise avec le frénois comme coproducteur. Alors là, je deviens effectivement un cinéaste qui travaille dans les salles de montage, qui travaille avec les équipes de tournage, les techniciens, les caméramans, les ingénieurs du son, qui mixent les films ou qui les enregistrent au pôle son. Et j'adore être effectivement un artiste dans le frénois, parmi d'autres, parmi les profs, qui sont des artistes confirmés, qui aussi réalisent des œuvres, parmi les étudiants. Et c'est vrai que le frénois devient une sorte d'atelier. Par contre, c'est pas un atelier où je travaille beaucoup mes travaux personnels. Récemment, et seulement récemment, j'en suis venu à demander l'autorisation de tirer certaines de mes photos au labo photo du frénois, qui est un labo extraordinaire dont je ne pourrais pas trouver mieux. Et mes dernières expositions ont été, des expositions de photographie ont été tirées dans le labo du frénois. Et donc, c'est vrai que je me sers du frénois aussi comme d'un outil de travail et que c'est la seule façon. Je suis beaucoup mieux dans les espaces techniques qu'à mon bureau, sauf aujourd'hui.
Au fond, est-ce que on pourrait considérer que le frénois est, en quelque sorte, votre grande œuvre, une œuvre de plus, en tout cas?
C'est devenu une œuvre, sinon je l'aurais abandonné. Comme je l'ai dit souvent, je suis fasciné par la production. Je suis obsédé par l'idée de produire en permanence, d'ajouter encore quelque chose à ce que j'ai déjà fait et de sûrement d'en faire trop. Ça m'a été parfois reproché. Et si je continue à m'intéresser au frénois, à y travailler, alors que, en principe, ça me détournerait du travail de production d'un artiste, c'est parce que je me suis convaincu, et qu'on m'a convaincu, mes amis m'ont convaincu que c'était une œuvre, que c'était devenu une œuvre importante, et je prends conscience de la chance que j'ai eue, parce que d'autres artistes ou d'autres théoriciens ont eu le projet de réaliser une école sans y réussir, pour diverses raisons. Certains grands artistes ont eu la chance, comme John Cage, par exemple, parmi beaucoup d'autres, d'être des pédagogues, de créer des lieux d'enseignement, des écoles. Donc moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance qu'on me donne les moyens de réaliser le frénois tel que je l'avais projeté, c'est-à-dire que si ça n'avait pas marché, je n'aurais pas pu dire « Ah, c'est parce que ça n'a pas été réalisé tel que j'avais voulu ». Ça a été réalisé tel que je l'ai voulu, à la virgule près. Il se trouve que ça marche, tant mieux. Mais voilà, c'est devenu en effet une œuvre que j'ai eu la chance de réaliser grâce à des circonstances politiques, je dirais, inespérées. Moi, je n'avais aucune relation avec le monde politique. Je ne savais même pas comment dire bonjour à un maire, monsieur le maire ou monsieur le député ou je ne sais quoi. Et c'est un milieu qui ne m'intéressait pas. Et je dois dire que c'est quand même une époque où la politique culturelle française, sous la présidence de François Mitterrand, était extrêmement féconde. Et je dois beaucoup à la clairvoyance de Jack Lang, qui a vu dans ce projet quelque chose qui devait avoir lieu, qui devait être réalisé, alors que ça aurait pu aussi bien, comme je craignais, atterrir au fond d'un tiroir.
Il me semble que, comme un certain nombre de vos œuvres, le Frénois est un lieu qui est beaucoup traversé par des histoires de fantômes, à plusieurs égards. Il y a une exposition de Georges Didier-Huberman, par exemple, qui s'intitulait simplement « Les histoires de fantômes ». Il y a aussi une légende qui veut qu'il y ait une chambre du fantôme, que Eugène Green a évoquée dans son petit film « Le nom du feu ». Ces fantômes sont toujours un peu des histoires de cinéma. Et puis, il y a aussi une autre histoire assez étrange dans laquelle vous avez un jour découvert que vous aviez finalement avec ce lieu un lien dont vous ignoriez jusque-là l'existence. Pour finir cette émission de ce soir, je voudrais savoir, Alain Flécher, est-ce que vous croyez dans la magie des lieux ?
Absolument, je crois dans la magie des lieux. Il y a des lieux qui sont extrêmement positifs. Je l'ai expérimenté dans ma vie avec des lieux à première vue, sans intérêt, sans séduction, et qui ont été incroyablement productifs pour moi, qui m'ont beaucoup stimulé. Il y a un appartement que j'ai eu à Rome pendant 23 ans qui était absolument nul, un appartement sans intérêt dans un quartier sans intérêt, et où j'ai écrit avec une facilité qui me surprenait moi-même une trentaine de livres. Dès que j'arrivais dans ce lieu, j'étais au travail et mon imagination fonctionnait. Donc je crois beaucoup en la magie des lieux. En ce qui concerne le Frénois, je pense que vous avez en tête une petite histoire que j'ai découvert tardivement. Quand ce lieu m'a plu, que j'ai découvert que ce n'était pas une usine ou une filature ou un lieu marqué par la douleur du travail, mais un lieu marqué par la joie des distractions, il m'a été sympathique, tout de suite. Mais c'était quand même la mémoire des autres, c'était pas la mienne. Moi, ma mémoire, c'était voilà où la mémoire fantasmée de l'Europe centrale, ou Paris, ou l'Espagne. Mais le nord de la France, je n'y avais aucune attache. Jusqu'au jour où, peu de temps après la mort de mon père, ma mère me demande un jour où je venais la voir si je rentrais de Lille, je dis non, je rentre de Tourcoing plus exactement. Elle me dit, ah, Tourcoing, c'est le lieu où ton père allait dans un endroit se distraire quand il a été employé d'une filature pendant 5 ans. Et elle me dit, ce lieu s'appelait le Frénois. Je tombe des nues, je dis, le Frénois, mais c'est exactement le lieu dont je m'occupe. Elle me dit, non, c'était un bal populaire, c'était pas un centre d'art. Je dis, oui, c'était un bal populaire, c'est devenu un centre d'art, c'est exactement le lieu dont je m'occupe. Donc j'ai découvert ce jour-là en parlant avec ma mère. Malheureusement trop tard, parce que si mon père avait été encore vivant, je lui aurais demandé des choses. Mais j'ai appris que pendant 5 ans, travaillant en face dans une usine, une filature qui s'appelle la filature Van Outrive, il venait passer ses dimanches et ses jours de distraction au Frénois pour danser, voir des films et s'amuser. Et donc, le jour où, rentrant de ce rendez-vous avec ma mère, je suis revenu au Frénois, je l'ai revu différemment.
Merci Alain Flécher. Alors ce caractère un peu magique, nous allons le retrouver demain en parlant de votre littérature.
Volontiers, merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Alain Flécher. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.